Bonjour à toutes et tous, je suis Emmanuel Gelman. J'ai le plaisir ce matin de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix que nous avons malicieusement intitulé « Alerte aux voleurs de poules ». Adieu veaux, vaches, cochons, couvées. Chers amis auditeurs, je ne vous apprends rien. La paix, par vaste programme auquel nous sommes particulièrement attachés dans cette émission, ça commence, ça se construit et ça se défend aussi en bas de chez soi, avec ses voisins, auprès de ses concitoyens, dans les quartiers, dans ces banlieues qui voient cohabiter des femmes et des hommes de tous horizons, d'origine, de tradition et de croyances variées. En l'occurrence, ça s'appelle la paix civile, et en France, en tout cas, l'État en est le garant. Or, au début du mois dernier, au début de l'été, le 7 août pour être précis, le service de la préfecture des Hauts-de-Seine, la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, ça ne s'invente pas, écrivait à tous les propriétaires de moutons, chèvres et volailles du département, on ne savait pas qu'ils étaient si nombreux dans ce département à la réputation plutôt urbaine, pour les inviter, je cite, à la plus grande vigilance face au risque de vol d'animaux, à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha et de la fête juive de Yom Kippour, qui auront lieu, comme chacun sait, durant ce mois de septembre. En effet, je cite toujours, des personnes mal intentionnées pourraient essayer de les capturer en vue de pratiquer des abattages clandestins, a cru bon d'expliquer au journal Le Parisien M. Patrick Drouet, le directeur de la fameuse DDPP des Hauts-de-Seine. Pour reprendre les termes de notre ami Meir Weintraiter, ancien directeur de rédaction de l'Arche et président de G-Call France, on imagine aisément, en effet, des hordes de musulmans se précipiter sur les élevages de moutons français afin d'y dérober des animaux destinés au sacrifice rituel. Mais pour faire bonne mesure, et sans doute pour tenter d'éviter de se faire taxer de racisme anti-musulman ou d'islamophobie, ce nouveau vocable à la mode, on associe les juifs à l'affaire, même si, de notoriété publique, les rites des caparottes est totalement passé en désuétude depuis des lustres. Alors, nous nous posons humblement la question, et nous allons le poser à notre invité. Les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, spécialement dédiés à la protection de la population, sont-ils bien dans leur rôle quand ils désignent leurs concitoyens, musulmans et juifs, à l'opprobre public? Pour en parler ce matin, j'ai invité notre amie Céline Pina, en sa qualité d'ancienne élue locale de la région parisienne, mais aussi et surtout en tant que présidente et fondatrice de Vivre la République, un jeune mouvement dynamique attaché, comme son nom l'indique, à défendre les valeurs de la République et à lutter contre tous les obscurantismes. Bonjour Céline Pina.
Bonjour.
Tout d'abord, peut-être un mot sur le mouvement Vivre la République que vous avez créé, son message, ses objectifs, ses réalisations.
Eh bien, disons que vous l'avez très très bien dit dès le départ. En fait, notre réaction, elle est née suite au 11 janvier où on a bien sûr participé aux manifestations comme beaucoup de monde et on était très heureux de voir un peuple se lever et on avait le sentiment finalement que nos représentants avaient pris conscience de la violence que l'on affrontait et de sa dimension idéologique. Et qu'ils étaient, face à ce qu'on venait de vivre avec l'assassinat des journalistes de Charlie et le massacre dans l'hypercachère, on avait vraiment l'impression que un peuple était debout et qu'avec ses dirigeants, on allait pouvoir à nouveau finalement combattre l'hydre-islamisme sans sombrer dans l'extrême droite et finalement faire valoir l'universalisme contre le communautarisme, l'égalité contre le séparatisme, la liberté contre les dogmes, la fraternité contre la haine de l'altérité. Et il nous a semblé que qu'il y avait un mouvement qui se levait. Et puis rien. Tout est retombé très vite et nous on s'est dit que l'histoire, les principes, les idéaux de notre pays, en ce qu'ils ont une portée universaliste, méritaient d'être transmis et qu'il était temps qu'on arrête la gestion clientéliste des intérêts communautaires qu'on voyait se dérouler sous nos yeux et qu'on rappelle que la politique est avant tout la quête de l'intérêt général. Et l'idée c'était que isolés nous sommes peut-être des cibles, mais que unis nous pouvons constituer un espoir. Et on s'est rassemblés autour de ces valeurs-là, autour de ces questions-là, et pour lutter sur le terrain contre ce qu'on voit alimenté par une idéologie politico-religieuse extrêmement perverse, c'est-à-dire se développer le sexisme, l'antisémitisme, l'homophobie, et ça dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises, quelque part au pied de nos maisons et de nos immeubles.
Et merci de
c'était
cette
comment
présentation.
lutter contre ça
Oui.
sans sombrer dans la colère, sans sombrer dans la violence, et tout en sachant que beaucoup de les premières personnes qui sont travaillées par les islamistes sont les musulmans. Pour certains, du coup, l'influence islamiste progresse énormément, mais pour d'autres, ils vivent simplement un enfer.
Pour en revenir à notre histoire de voleurs de poules, était-ce une bonne idée, selon vous, à l'heure où les communautarismes, et en particulier l'islamisme dont vous parliez, mettent en danger le vivre ensemble, que de mettre ainsi les musulmans, et accessoirement les juifs, en accusation de cette manière?
Parfaitement stupide et incompréhensible. Il y a deux questions distinctes dans cette histoire. La première, c'est la réalité de faits de vol qui sera en lien avec des cérémonies religieuses, et on voit bien qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, la seule chose qu'on trouve, c'est un vol en 2013, et en plus, ce vol aurait été commis en Lorraine par des Roms qui auraient revendu les bêtes ensuite, mais on ne trouve aucune trace, en tout cas, de vol d'animaux dans les fermes, dans les Hauts-de-Seine. Enfin, c'est extrêmement choquant déjà que les faits soient faux. Donc on a des faits imaginaires, mais sur lesquels on s'appuie pour finalement lancer un discrédit collectif. Donc c'est quand même extrêmement choquant. La deuxième chose, c'est finalement le fait que dès qu'il y a une déclaration négative à l'égard des musulmans, on associe toujours les juifs et ils sont utilisés comme alibi ou paravent dès qu'il y a une observation à faire à la communauté musulmane. Donc voilà, on a vraiment 2 degrés parce que, en plus de ça, pour le coup, on n'a vraiment pas de traces de vol de bêtes à ces périodes-là.
Donc pas de
Donc c'est une
précédent pour
injustice
justifier
faite.
ça.
Non, c'est vraiment une injustice faite et aux musulmans et aux juifs.
La DDP, enfin la DDPP, c'est donc la préfecture. Et la préfecture, c'est l'État.
Tout à
Est-ce que
fait.
ce n'est pas un problème que l'État puisse ainsi véhiculer de tels préjugés par l'intermédiaire de ses représentants territoriaux?
J'allais dire, c'est d'autant plus un problème, bien sûr que l'État véhiculant de tels préjugés, c'est catastrophique, mais j'allais dire, c'est d'autant plus un problème que de temps en temps, on aurait bien besoin de l'action de l'État. Et je pense à un livre qui vient de sortir aujourd'hui, qui s'appelle Principal de collège ou imam de la République, dans laquelle Bernard Ravet, qui est un ancien principal de collège à Marseille, raconte à quel point il est impossible d'accueillir un enfant juif à l'école de la République, dans certains quartiers. Et la situation étant parfaitement acceptée, elle est connue des autorités publiques, elle est acceptée, il n'y a aucune intervention qui est faite, et quand vous le dites, les autorités baissent les yeux et vous dites, oui, on sait, oui, c'est un problème. Point. Fin de
Donc,
l'action.
selon vous, qui avez pratiqué ces administrations territoriales, comment mettre en garde les personnels et les responsables de ces administrations pour éviter ces dérives de verbales et ces maladresses? Qui
Je
faudrait-il
pense que
alerter?
là, Je pense que la première chose, c'est peut-être arrêter d'être dans l'alerte, la sensibilisation, etc. Ici, on voit que la personne qui commet cette erreur-là, ce n'est pas un petit employé. C'est quelqu'un qui a un très haut niveau, qui est tout à fait capable de comprendre la valeur symbolique de ce qu'il met en œuvre, qui est tout à fait capable de comprendre le poids des mots. Et quand on fait une erreur pareille à ce niveau-là, il faut être sanctionné. Il y a des sanctions administratives qui existent. Vous pouvez pas, moi je trouve un petit peu pénible qu'on ait des gens qui soient à ce tel, s'ils sont à un tel niveau de responsabilité. La responsabilité, c'est pas simplement un privilège, c'est aussi de temps en temps assumer la faute collective. Eh bien, il faudrait qu'il y ait des sanctions. Si il y avait des sanctions, les gens y réfléchiraient à 2 fois. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a très très peu finalement de la responsabilité n'est pas exercée. Donc je veux bien de la sensibilisation, mais j'allais dire auprès de gens qui ont fait de grandes études et que l'on a sensibilisé dans leur parcours intellectuel et professionnel à ces questions-là, il y a un moment où je ne sais pas tellement que faire. Et ensuite on voit bien il y a d'abord la réalité des faits. Quelqu'un qui est capable de faire une circulaire qui ne s'appuie sur aucun fait réel. Je ne sais pas si c'est en le sensibilisant finalement à la culture juive ou à la culture musulmane qu'on répond au problème. Je crois qu'à un moment donné, ici, avant même le véhicule de préjugés, c'est finalement la vraie tenue des services publics que l'on doit interroger.
Merci Céline Pina de nous avoir rapporté vos lumières sur cette ténébreuse affaire. Peut-être un dernier mot sur votre agenda, les projets de votre organisation, une adresse internet, peut-être pour suivre votre actualité?
Eh bien oui, je crois, c'est www.vivelarépublique.fr, et sur finalement les derniers projets sur lesquels on s'est mobilisé, ça a été le camp des coloniales interdit aux Blancs, où on a interpellé notamment le président de l'Association des maires de France. Ça a été
Dont
une
on a beaucoup
analyse,
parlé ces
mais
derniers temps, oui.
oui, parce que c'est
Alors,
extrêmement
sachant que
choquant.
vous êtes également, vous-même à titre personnel et votre organisation, présente sur Facebook et sur Twitter. Encore un
Tout
grand
à
merci
fait.
à vous, Céline Pina, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, Emmanuel.
Je vous en prie. Signalons avant de nous quitter que JICO l'organisera le 2 octobre au CBL, le Cercle Bernard-Lazare, une soirée de soutien au mouvement israélien des femmes pour la paix, qui organise elle-même une route pour la paix du 24 septembre au 10 octobre. Plus de détails sur le site JICO, www.jicol.eu et sur la page Facebook de JICO. Sur cette dernière annonce, un grand merci à tous, amis auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Shabbat Shalom et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Chronique pour la paix.